France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue en direct au Carreau du Temple à Paris. C'est une comédie musicale du même calibre que West Side Story, produite par le même Aaron Prince, mise en scène par le même Jérôme Robbins et aux propos tout aussi sérieux, sans manquer de fantaisie. Un violon sur le toit a été créé à Broadway en 1964, c'est-à-dire 7 ans après West Side Story. Et c'est une histoire éternelle de conflits de générations située à une époque sombre, en Russie, au temps des pogroms contre la population juive. Un violon sur le toit, à vrai dire, est arrivé assez vite en France, 5 ans plus tard, en 1969, avec Ivan Rebrov qui incarnait le rôle titre du laitier, père de 3 filles, dont chacune veut décider elle-même de son mari, sans passer par une entremetteuse. Depuis, le spectacle a toujours été monté en France dans des théâtres privés. La dernière fois, c'était au théâtre Comédia, dans une mise en scène d'Olivier Benezech. Mais sinon, eh bien, à l'exception peut-être d'une production à l'Opéra de Nice en hongrois en 1988, c'est bien la première fois qu'un violon sur le toit va être monté en France dans un opéra, et pas n'importe lequel, l'Opéra National du Rhin à Strasbourg, en langue française, et dans une mise en scène du talentueux et iconoclaste australien Barry Kosky, qui aime aussi bien, mettre en scène Castor et Pollux, La Flûte Enchantée ou West Side Story. Un violon sur le toit sera donc à l'affiche à Strasbourg du 16 au 17 décembre. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir en avant-première, en direct du Carreau du Temple, quelques-uns des acteurs principaux, à commencer par celui qui incarne le laitier Thévier. Alors, je vous plante le décor. On est à Anatevka, une petite ville campagnarde de la Russie des Tsars au début du XXe siècle. Les habitants sont des gens simples dont l'existence est réglée par les lois de la communauté. Ils conservent une tradition. Et puis Thévier, lui, c'est le laitier du village. Il a élevé le mieux possible ses 5 filles. Et malgré sa condition modeste, il exprime son désir de leur donner une certaine éducation. C'est le thème de ce premier titre. Je demande d'accueillir Olivier Bretman, qui sera accompagné au piano par Frédéric Calandreau. Le titre de la chanson « Ah si j'étais riche ».
Non, 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 Seigneur, non, non, je ne me plains pas vraiment. Après tout, grâce à toi, je meurs de faim. Non, Seigneur, tu as fait beaucoup, beaucoup de pauvres. Ah, bien entendu, je me rends bien compte, c'est pas une honte d'être pauvre. C'est pas non plus un grand honneur. Alors, est-ce que ce serait si terrible que ça si j'avais une petite fortune? Ah, si j'étais riche. Tout le jour, je bidi-bidi-boule. Si j'en avais plein les poches. Plus de vaches à traire. Si j'avais du bidi bidi blé, dig daidle diddle daidle à moi, je bâtirais un vrai manoir tout en marbre blanc, de la cave jusqu'au toit, des tas de pièces avec du parquet ancien. Y aurait un escalier géant pour aller en haut et un autre vers le bas, plus un qui n'irait nulle part pour faire bien. Si j'étais riche enfin, je remplirais ma cour de poules, de pintas, de poules assourdissantes, et que ça caquette et que ça jacasse. Et tout leur dirait aux familles environnantes, regardez bien, cet homme est plein aux as. Ah, si j'étais riche, tout le jour je bidi bidi roule, si j'en avais plein les poches, plus de vaches à traire. Si j'avais les billy billy blés, dig daddle diddle daddle à moi, je vois déjà Goldée en véritable femme de riche, avec deux ou trois mentons, surveillant de près tout son intérieur. Regardez-la qui parade et prend son air hautain. Ohé, elle frétille comme un gardon, tout en houspillant nos serviteurs. Jour après jour, les gros bonnets viendront chercher conseil. Ils s'en remettront à moi seul, comme du temps de Salomon. Je vous prie, Reptébière, mille excuses, Reptébière, mille problèmes qui n'ont jamais de solution. Vai, 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 vai. Et le plus curieux, c'est que peu importe que j'ai tort ou bien raison, quand on est Crésus, les gens vous croient. Si j'étais riche, enfin j'aurais tout le temps d'aller jusqu'au temple pour prier. J'aurais même un siège près du mur de l'Est. Je parlerais des livres saints avec nos grands sages le plus clair de la journée. Ce serait plus doux que tout le reste. Ah, si j'étais riche, tout le jour j'ai bidibidibou, si j'en avais plein les poches, et plus de vaches à traire. Dieu qui fit le lion et la brebis, grâce à toi, je suis ce que je suis. Est-ce qu'un grand désastre serait proche si j'en avais plein les poches? Ouais.
Bonjour Olivier Bretman. On va allumer votre micro. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire, ne cachons rien aux auditeurs, que c'est une prise de rôle, là, juste un instant, t'es 13h07 sur France Musique?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est une des premières fois que j'aborde en public ce personnage.
En fait, la production va avoir lieu dans 2 mois.
Voilà.
Le metteur en scène, c'est un grand metteur en scène d'opéra que nous avons interviewé, qui ne peut pas être là aujourd'hui, il est à Berlin. Dans 1 mois, il va mettre en scène Prince Igor à l'Opéra de Paris. Et donc, pour le moment, vous travaillez... Comment vous travaillez pour entrer dans ce personnage, Olivier Bretman? Vous travaillez sans lui? Vous l'avez rencontré? Vous allez nous raconter?
Oui, bien sûr, j'ai rencontré. Ben, j'ai passé des auditions et puis j'ai eu une rencontre avec lui. On a discuté pendant 2 heures de tas de choses diverses et variées sur le spectacle, sur... sur nos origines communes, puisque nos familles de générations anciennes viennent de Russie, pas très loin les uns des autres, donc.
Alors, c'était pas une audition, donc vous aviez pas les chocottes, si j'allais dire. C'était vraiment une discussion à bâton rompu avec lui. Qu'est-ce qu'un metteur en scène qui rencontre son futur acteur lui demande?
Ben, il m'a demandé ce que j'aimais dans le spectacle, pourquoi j'avais eu envie de passer l'audition. Et puis voilà, donc je lui ai raconté effectivement que c'était une histoire qui me touchait particulièrement.
Et après, vous m'avez dit, première chose que vous avez faite, c'est vous plonger dans la lecture des nouvelles écrites par Shalom Aleichem.
Aleichem, oui, tout à fait. Teviel Lettier, qui est donc le roman de départ. D'où est issue la comédie musicale.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces nouvelles sur votre personnage de Teviel Lettier, de ce petit village d'Anatevka?
Alors déjà, le roman est un peu différent de la comédie musicale. Déjà, il se passe pas exactement à la même époque, puisque c'est à la fin du 19e siècle dans le roman, et la comédie musicale se passe au début du 20e siècle. Et donc, j'ai découvert des tas d'anecdotes et de détails qui ont la place d'être développé dans le roman et qui, bien sûr, pour un spectacle qui ne peut pas durer 10 heures, sont un petit peu transformés. Et puis, c'est une comédie musicale, alors que le roman, évidemment, la musique, on se la fait intérieurement.
Alors, on connaît peut-être le film avec Zéro Mostel. Du coup, vous regardez pour vous plonger dans ce genre de personnage. Vous allez voir comme ça
Oui, je suis allé voir parce qu'il existe sur Internet des extraits avec Zéro Mostel qui avait créé le rôle, mais le film, c'est pas Zéro Mostel,
c'est Topol.
Ah oui, c'est Topol, tout à fait. Oui, c'est Zéro Mostel qui l'a créé à Bruges, et le film, c'est Topol.
Alors donc voilà, en attendant de pouvoir travailler profondément avec le personnage, avec Barikowski, je suis allé m'enseigner sur un petit peu tout ce qui s'est fait, les différentes versions. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est en fait assez universelle, même s'il se passe dans un endroit très précis, dans un shtetl en Russie. C'est une histoire qui raconte vraiment, la première chanson s'appelle Tradition, et c'est vraiment l'histoire d'une famille, d'un village, qui essaye de voir comment est-ce qu'on peut conserver son identité ancestrale et traditionnelle, mais tout en vivant dans le monde moderne, et comment est-ce qu'on peut vivre avec son temps.
Alors on va continuer à découvrir les airs de cette nouvelle production avec nous aussi, et on écoutera tout à l'heure Stéphane Laporte. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Parce que cette production est présentée, et ça aussi c'est rare, on va en parler à l'Opéra du Rhin en langue française.
Hein,
on a plutôt l'habitude de voir à l'Opéra des comédies musicales en langue originale. Et là, c'était une volonté de Barikowski. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais pour le moment, on va continuer de découvrir les personnages principaux de cette histoire, à savoir vos filles, Olivier Bretman.
Trois de mes filles.
Trois de vos filles.
Nos filles.
Oui.
Voilà. Et Golde, la femme de Thévier, est également avec nous.
Et c'était mon commentaire de la journée. Merci.
Bonjour Jasmine Roy. On est au début de l'histoire dans ce petit shtetl. Les trois sœurs ne rêvent que d'une chose, trouver un homme et se marier. Et donc la tradition veut que ça se passe quand même, dans ce petit shtetl, par une entremetteuse. Elle s'appelle Liente. C'est elle qui décide des arrangements entre familles. Et donc voici le moment où les trois sœurs rêvent chacune du mari idéal. On sent déjà que l'aînée, interprété par Naïma Naouri, un besoin d'émancipation, vous allez l'entendre puisque tout est en français. Naïma Naouri interprète Saitel, Marie au père Odel et Anaïs Ivoz, Chava. Matchmaker, c'est le titre en anglais de ce titre, et en français, adapté par Stéphane Laporte, La Marieuse.
Il faut bien une marieuse, non ? Les jeunes ne peuvent pas décider de ça tout seuls.
Peut-être qu'elle trouvera quelqu'un de merveilleux.
Quelqu'un d'intéressant.
Et d'important.
Et de riche. Yento, oh Yento, y a-t-il au village un bon parti, un beau visage? Yento, oh Yento, je n'attends que lui pour faire le parfait mariage. Yento, oh Yento, je fournis le voile. Toi, trouve un homme. Je voudrais tant à son bras pouvoir faire l'envie de la terre entière. Papa rêve d'un érudit et maman, elle aimerait qu'il soit riche. Et moi, juste qu'il soit châtain aux yeux gris. Pour le reste, eh bien, je m'en fiche. Yente, oh Yente, y a-t-il au village un bon parti, un beau visage? Nuit après nuit, je suis seule.
T'intéresse à un mari, Rava? Je croyais que tu ne pensais qu'à tes livres. Et toi, tu n'as Dieu que pour le fils du rabbin.
Et alors, on n'a qu'un rabbin et il n'a qu'un fils. Pourquoi je voudrais pas ce qu'il y a de mieux?
Parce que tu viens d'une famille pauvre. Alors quoi que t'amène Niente, tu le prendras. Non? Oh, si.
C'est fou ce que je te gâte. Il est beau et grand. Enfin de gauche
à droite, mais c'est un homme bon, un homme bien, non ? Oh si ! D'accord, il va te battre, sans doute et pour un rien, mais seulement s'il est sobre, donc tout va bien. Ça y est, je suis ton prétendant, il est beau et jeune, encore 64 ans, mais c'est un homme bon, un homme bien, c'est vrai ! C'est vrai, il va te rendre heureuse. Et s'il ne le fait pas, sers-lui quand même d'esclave et prends sur toi. Redescends un peu sur terre. Moi je fais mon maximum. Sans la moindre fortune, sans titre et sans dot. Bien beau d'avoir un homme. Yente, oh Yente, je n'ai que 16 ans. Je t'en supplie, prends tout ton temps. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris qu'un homme, ça vous suit à vie. Choisis de le tendre et paisible. Oh Yente, souviens-toi, j'ai un cœur. Ce n'est pas qu'on soit sensible, c'est juste qu'on
avec en avant-première cette nouvelle production d'Un violon sur le toit, mise en scène par Parikowski, qui ouvrira au théâtre, à l'Opéra National du Rhin, au début du mois de décembre prochain. Vous avez découvert donc les trois sœurs, interprétées par Naïma Naouri, Marie Aupert et Anaïs Ivoz. Voici maintenant l'un des prétendants. Il s'appelle Motel, c'est un modeste tailleur, il n'a qu'un seul rêve dans la vie, épouser la fille aînée du laitier, Zeitel, incarnée par je veux pas écorcher les noms, et donc je cherche, voilà, Naïma Naouri, excusez-moi. Mais voilà, le problème c'est que la marieuse a déjà tout arrangé, et normalement, Zeitel doit se marier avec le fils de l'homme le plus riche du village, le fils du boucher. Mais bon, Thévier apprend que sa fille aînée a promis sa main au tailleur. Il est d'abord choqué, et puis il réalise qu'il se trouve devant un amour profond et sincère. Il finit par céder et donne même sa bénédiction. Voici en direct sur France Musique la réaction de Motel. On peut dire qu'il est aux anges. C'est Alexandre Fetroni qui incarne Motel au piano, Frédéric Calandreau en direct sur France Musique.
Des merveilles, je n'étais rien, mais aux surprises, Dieu m'a choisi et aux merveilles des merveilles m'a conduit en terre promise. C'est le miracle, la merveille des merveilles. Mon avenir était obscur, mais comme il l'avait fait plutôt à Jéricho, Dieu a fait tomber le mur. Quand Pharaon enfin s'émeut, ça c'est un grand miracle. Quand Dieu fend les eaux de la mer rouge en deux, c'est un miracle et un vrai. Mais des grands miracles voulus par Dieu, aucun n'est aussi miraculeux que de voir celui qui n'était rien devenir un homme enfin. C'est le miracle, la merveille des merveilles, Dieu vient à l'aide d'un tailleur, lui prend la main et aux merveilles des merveilles l'aide à surmonter sa peur. David jetant Goliath à terre, ça c'est un grand miracle. Quand Dieu fait jaillir la manne en plein désert, c'est un miracle et un vrai. grand miracle voulu par Dieu, aucun n'est aussi miraculeux que celui auquel enfin je crois. Dieu m'a fait cadeau.
Alexandre Petrumi, prise de rôle aussi aujourd'hui dans ce personnage de Motel, dans Un violon sur le toit, cette production que vous découvrirez à partir du mois de décembre à l'Opéra National du Rhin, et donc une mise en scène très particulière par quelqu'un qu'on peut dire et qu'on peut qualifier d'iconoclaste dans le monde de l'opéra. Il peut aussi bien mettre en scène Saul de Handel au festival de Klagenfurt, ou alors par exemple Die Meistersinger von Nürnberg au festival de Bayreuth. D'ailleurs, c'était la première fois qu'un metteur en scène juif mettait en scène du Wagner à Bayreuth. Et puis il a également mis en scène la flûte enchantée au Komische Oper de Berlin, dont il est directeur artistique depuis 2012. La particularité de Barikowski, c'est qu'il aime aussi bien mettre en scène des opéras que des opérettes ou des comédies musicales. Il a notamment fait redécouvrir au public de Berlin des opérettes allemandes oubliées des années 30. En décembre, il va signer sa première mise en scène à l'Opéra de Paris, Prince Igor de Alexandre Borodine. Alors, eh bien, je l'ai joint parce qu'il est extrêmement débordé cette semaine par téléphone.
Bonjour, je m'appelle Barikowski, je suis le metteur en scène pour le Fiddler on the Roof en Strasbourg. It's a great pleasure to be on 42nd Street on France Musique.
Alors Barikowski, comment avez-vous abordé cette comédie musicale Un violon sur le toit et quel rapport vous avez avec cette œuvre ?
I came from a Jewish family of Russians. My family, the Koskis, came from Belarus.
Pour moi, c'est une œuvre particulière. Vous savez, je suis issu d'une famille juive en Russie. Dans ma famille, la branche Koski est originaire de Biélorussie. Ils ont émigré en Australie en 1903 parce qu'ils ont fui les pogroms. Et ils sont venus d'un shtetl en Biélorussie qui ressemble exactement au shtetl d'Anatevka dans Un violon sur le toit. Donc, j'ai ressenti un lien avec cette histoire, pas seulement parce qu'elle raconte et qu'elle se déroule dans la communauté juive, mais parce qu'elle raconte l'histoire de mon grand-père et de mes grands-parents. Grands oncles avant leur venue en Australie.
I very much want to play with the idea that you know that the people on stage are very believe. I think you know I try to get away from this kitsch.
Dans ma mise en scène, je veux être le plus éloigné possible du kitsch, du folklore, du sentimentalisme qu'on voit si souvent dans Un violon sur le toit. Les productions que j'ai vues à Londres ou à Broadway, je les ai trouvées très propres, simples et même sentimentales, mais dans le pire sens du terme. Pour moi, il faut que le public ressente ce que ressent ces personnages. Il faut qu'ils soient touchés par elles, il faut qu'ils les comprennent.
Everything by making everything believable, and secondly by pushing the extremes. So the violence is really violent.
Pour évacuer le sentimentalisme, il faut rendre tout crédible et pousser l'ensemble à ses extrêmes. Donc la violence est vraiment violente. La peur, c'est vraiment peur. La scène de mariage est interrompue et c'est à cause d'un pogrom. Ce n'est pas seulement quelques chaises et meubles qu'on va renverser sur scène. Non, comme à la fin du premier acte, lorsque le mariage est interrompu, c'est par les policiers russes. Locaux.
And to make it as joyful as possible and as heartbreaking as possible. And
il faut donc pousser les choses à leur extrême, la joie, l'émotion. Et puis j'ai rendu le tout très rapide. J'ai demandé à ce que les dialogues soient dits à un rythme plus rapide que dans une comédie musicale traditionnelle, car c'est la façon de parler des Juifs. Les Juifs parlent souvent très vite, tous mes amis parlent très vite et ils ne parlent pas lentement. Parfois, ils parlent même en même temps. C'est une part importante de ma production.
It sounds very different from a normal Broadway production. We really try and make a Fiddler on the Roof very real and very confronting and.
Je souhaite donc une production différente de celle qu'on peut voir à Broadway, très réelle, très touchante, pas kitsch, pas folklorique. En fait, cette œuvre ressemble dans son fondement au Roi Lear de Shakespeare, mais sans la folie.
Tevye doesn't go mad.
Dans Un violon sur le toit, la folie, elle apparaît autour d'eux. Tevye ne devient pas fou, mais il est confronté exactement au même dilemme que le roi Lear. C'est un dilemme de génération aussi. Ses filles se comportent d'une façon qu'il a au départ du mal à comprendre. Alors, Tevye ne devient pas fou comme le roi Lear. Ses filles ne tuent personne. Mais ce drame de génération au sein d'une famille, c'est la clé d'Un violon sur le toit.
this family generational drama is at the key of it. It's essentially a piece.
C'est une pièce sur un homme, ses filles, sa femme, les circonstances, la communauté juive. Mais le cœur de l'histoire de Un violon sur le toit, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui essaie de comprendre ses filles.
It's a piece about a man trying to understand his daughters.
After a lifetime, a piece of paper, an edict from the authorities, and we must all leave our homes.
Rabbi, we've been waiting for the Messiah all our lives. Wouldn't this be a good time for him to come?
We'll have to wait for him someplace else. Meanwhile, let's start packing.
Well, Anatevka hasn't exactly been the Garden of Eden.
That's true.
After all, what have we got here? A little bit of this, a little bit of that.
A pot.
A pan.
A broom.
A hat.
Someone should have set a match to this place years ago.
A bench.
A tree.
So what's a stove?
Or a house. People who pass through Anatevka don't even know they've been here.
A stick of wood?
A piece of cloth.
What do we leave?
Nothing much. Only Anatevka. Anatevka, Anatevka. Underfed, overworked, Anatevka. Where else could Sabbath be so sweet? Anatevka, Anatevka. Intimate, obstinate, Anatevka. Where I know everyone I meet. Soon I'll be a stranger in a strange new place, searching for an old familiar face. From Anatevka I belong in Anatevka. Tumble down, work a day, Anatevka. Dear little village, little town of mine.
Un extrait de l'enregistrement original à Broadway de Un violon sur le toit. C'était en 1964 avec Zéro Mostel. Et cette ode à ce petit shtetl, ce petit village ukrainien d'Anatevka, que doivent quitter à la fin de l'histoire le laitier, sa famille et toute la communauté juive du village, puisque l'armée russe menace de les tuer. Un shtetl, on l'a compris, comme celui où ont grandi les grands-parents de Barikovsky, le metteur en scène. Retour en direct au carreau du Temple avec les artistes Un violon sur le toit. Cette production à l'affiche en décembre à l'Opéra National du Rhin. Voici dans la famille du laitier, la fille cadette, Odelle. Elle va suivre le chemin de sa sœur. Parce que voilà, son père lui a choisi un précepteur, il s'appelle Pershik, c'est un jeune étudiant aux idées socialistes, et puis à force de discussions politiques, les deux vont se séduire, et au début du second acte, il lui avoue qu'il l'aime et lui demande sa main. Voici leur duo, en anglais c'est « Now I have everything », en français Stéphane Laporte l'a adapté en « L'heure est proche », Marie Aubert incarne Odelle et Sinan Bertrand Pershik au piano, Frédéric Calandreau en direct sur la 42e rue de France Musique.
Je me suis dit longtemps que j'avais tout au monde, mais j'avais tort, je le vois. Oui, j'avais ma mission et c'était tout au monde. Mais à présent, je tais-toi plutôt que de mourir pour elle. Je vivrai avec bonheur pour toi. Oui, enfin, j'ai tout au monde, pas seulement tout au monde, car maintenant tout est clair. En plus d'avoir tout au monde, je sais à quoi cela sert. J'ai longtemps cru ne jamais trouver celle pour qui cette vie d'errance pourrait sembler belle.
Patiemment je t'attendais, je guettais.
Qui sait où toi et moi serons bientôt.
Tu seras.
Le destin suivra son cours,
mais toujours toi.
Plutôt que de mourir pour elle, je vivrai avec bonheur pour toi. Oui, enfin j'ai tout au monde, pas seulement tout au monde, car maintenant tout est clair. D'avoir tout au monde, je sais à quoi cela sert.
Merci Sinan Bertrand, merci Marie Hopper pour ce duo d'amour dans Un violon sur le toit. Voilà, on l'a compris, Un violon sur le toit parle de la tradition juive, de la coutume de décider des époux de ses enfants, et puis ça parle d'enfants qui veulent plutôt s'émanciper, ce qui provoque à un moment dans l'histoire une profonde remise en question des parents. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Jasmine Roy incarne donc la femme de Thévier, c'est peut-être elle la plus difficile à convaincre. Voici un magnifique moment signé pour eux par les auteurs d'Un violon sur le toit, les auteurs des chansons, Sheldon Harnick et Jerry Bock. C'est le moment où les parents commencent à se poser des questions. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'as épousé par amour ? Je ne t'ai pas choisi. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Jasmine Roy est Golde, la femme de Thévier le laitier. Olivier Bretman est donc Thévier. Et au piano, Frédéric Calandreau.
Est-ce que tu m'aimes ?
Si je crois.
Est-ce que tu m'aimes ?
Est-ce que je t'aime ? Vu ce qui se passe en ville et nos enfants qui se marient, tu t'agites, tu t'inquiètes, rentre au chaud, va au lit. Est-ce que tu as de la fièvre ?
Goldé. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu m'aimes ?
Tu dérailles.
Ah, c'est vrai. Mais est-ce que tu m'aimes ?
Est-ce que je t'aime ?
Eh bien.
Depuis 25 ans, je lave ton linge, cuis ta soupe, traite ta vache. Je t'ai donné nos 5 enfants. Oh, c'est idiot de parler d'amour après 25 ans.
Goldé, je t'ai rencontré juste avant de t'épouser. J'étais gauche.
Moi transi.
J'avais peur.
Et moi aussi.
Je revois mon père promettre que l'amour viendrait à naître. Alors, je veux savoir, Goldé, est-ce que tu m'aimes ?
Je suis ta femme.
Je sais. Mais est-ce que tu m'aimes ?
Est-ce que je l'aime ?
Alors ?
Depuis 25 ans, on vit ensemble, râle ensemble, trime ensemble.
Je ne m'endors que s'il est là. L'amour, c'est sûrement ça.
Mais tu m'aimes, alors?
Je crois bien que oui.
Et je crois bien que moi aussi. À présent qu'on le sait, ça change rien. Mais après 25 ans, ça fait du bien.
Parole de Jean-Pierre, Laurent Vallière, France Musique.
Bonjour Jasmine Roy.
Et rebonjour
Stéphane Laporte.
Rebonjour Laurent Vallière.
J'avais une première question. C'est très émouvant d'entendre cette chanson.
Je suis pas étanche.
et en fait, on la connaît, on connaît la mélodie. C'est vrai que les paroles en français ont tout un sens. On comprend ce que ça veut dire. Mm. Est-ce que Barry Kosky vous a expliqué pourquoi il voulait présenter Un violon sur le toit à l'opéra en langue française? Que voilà, au Châtelet, on présente des productions de, ou même à l'opéra Toulon. Souvent, c'est en version originale sous-titrée. Mm. Pourquoi le faire en français?
Comme il l'a créé à Berlin en allemand. Parce que pour lui, c'est une pièce de théâtre et que le propos est largement aussi important que la langue originale. Et pour lui ça, je pense que ça n'a jamais fait le moindre doute qu'il fallait absolument le présenter dans la langue du pays où c'est produit.
Après, l'adaptation, c'est compliqué?
C'est un énorme bonheur. C'est pour moi un des trois plus grands musicals de tous les temps. Donc franchement, travailler là-dessus... J'ai d'ailleurs retravaillé un petit peu en fonction de la mise en scène de Berlin. Qui
ajoute des choses, c'est ça?
Qui ajoute des choses, oui, absolument.
Comment il peut se permettre d'ajouter des choses, je crois?
Oh, bah avec la permission des ayants droit, quand même.
Hein. Il ajoute quoi, par exemple?
Des petites choses, c'est de l'ordre, par exemple, des transitions entre les scènes. Il y a des petits moments qui ont été rajoutés, qui ont été créés pour l'occasion, qui ont été improvisés par la troupe de l'Opéra de Berlin, et qui maintenant font partie de sa mise en scène. Donc il a fallu adapter ces petits bouts en plus.
Alors autour de la table, il y a Sinan Bertrand, bonjour. Jasmine Roy et Stéphane Laporte. Vous étiez trois seuls dans la troupe à avoir vu le spectacle.
Le même soir.
Olivier Bretman m'a dit qu'il avait été convié, mais que Barry Kosky lui a dit n'allez pas le voir. Mmh. Alors racontez-nous. D'abord, on m'a dit que ça commençait de façon très moderne avec un jeune d'aujourd'hui en train d'écouter.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Expliquez-moi un petit peu.
Je pense que je vais laisser parler Jasmine et Sinan, mais je crois que l'image de la tradition est quelque chose d'extrêmement important pour Barry Kosky, et c'est son message prévalent dans tout le spectacle. Et ça démarre effectivement avec un gamin en roller, si mes souvenirs sont bons, ou non?
En capuche, avec son Walkman, qui commence à travailler son violon et qui du coup joue les premières notes du violon et arrive derrière, il y a un placard, on frappe à la porte et déboule sur scène tous les personnages,
tout le village,
etc.
Ce qu'on n'a pas dit encore, mais ils sont 60 sur scène, oui. Quand même. Hein.
65.
Oui.
Sur scène. Je suis là juste pour faire...
Donc on voit vraiment le village.
Vous avez bien fait de venir, Jasmine. Non, Stéphane, vous m'avez dit, alors bon, je ne sais pas si c'était un effet de manche, je m'avais dit que c'est une des cinq plus belles productions de comédie musicale que j'ai vues au monde.
Oui.
Alors expliquez-nous. Ou même Jasmine peut ouvrir.
Je pense qu'on est sur la même page.
Oui, je pense qu'on est sur la même page. Moi, je me suis dit que ça va être très difficile de jouer dans ce spectacle après avoir vu le spectacle, parce que je pense que tous les trois, on a passé 3 heures à pleurer.
Oui.
Voilà. Non, mais c'est beau. Pas parce que c'est... Voilà.
Oui,
c'est parce que c'est beau.
Il y a des morts sur scène?
Non. Okay. Non, non. J'ai dit que je ne dirais rien, Laurent.
Je pose des questions.
Non, non, mais en fait, la magie, la force de Barry Kosky, c'est de traiter, je crois, tous les opéras. Si vous voyez quelques opéras qui sont des fois diffusés, c'est que l'opéra, il le traite un peu comme une comédie musicale. Il casse les codes, il peut même aller dans le cabaret dans l'opéra, notamment son Carmen qui a été présenté à Londres. Mais dans la comédie musicale, il lui donne un air d'opéra aussi. Mais tout ça est fait avec une telle sobriété, une telle simplicité et surtout une telle intelligence. Il n'y a pas d'artifice pour d'artifice.
Il y a une petite anecdote que j'adore, c'est que quand Barry m'a parlé d'Olivier...
Olivier Bretman qui interprète
le Letty. Qui montre à quel point vraiment il perçoit le violon sur le toit comme une pièce extrêmement intime, malgré les 65 personnes sur scène. Il m'a dit il a les yeux de Thévier. J'ai trouvé ça tellement beau. Hein? Je me suis dit, il envisage ça vraiment comme une série de gros plans. Ce personnage est habité de façon très profonde.
Et parlez-nous des chorégraphies. On sait quand même que l'original a été créé et mis en scène et chorégraphié par Jérôme Robbins. On trouve ça à l'identique parce que j'ai vu qu'il y a un chorégraphe qui travaille sur le projet.
Absolument. Et 12 danseurs, je crois, dans la production. Ça respecte les codes, ça respecte tout le folklore, parce qu'il faut forcément faire une petite référence au folklore yiddish juif, toutes ces postures, cette danse, la danse des bouteilles qui est écrite. Mais c'est fait avec énormément d'ingéniosité, de créativité, de modernisme aussi, en fait. Ça nous parle à nous. Et comme disaient, en fait, mes camarades, cette production est riche visuellement, beaucoup de choses. Il n'y a pas un seul centime qui est dépensé, qui n'ait pas un sens, qui n'ait pas une justification, qui ne soit pas utilisé. C'est une mise en scène exceptionnelle.
Alors, vous parliez de la scène de la danse où, lors du mariage de l'aîné avec Motel, il y a des hommes en habit noir qui portent un chapeau et qui posent une bouteille sur leur chapeau et se mettent à danser, à s'accroupir en levant la jambe. C'est sur une fameuse danse, la danse du mariage. Alors, on n'a pas d'enregistrement encore de la production de Berlin ni de celle de Strasbourg. Je vous propose d'écouter l'enregistrement de la production à Broadway en 2016, dirigée par Bartlett Scher, sous la direction musicale de Touch Berlin, juste pour se rappeler ce moment important dans Un violon sur le toit. Moment où les danseurs, lors du mariage de Zeitel, danse et lève la jambe avec une bouteille sur la tête. Un extrait d'un violon sur le toit à l'Opéra du Rhin. C'est Kun Schutz qui assurera la direction musicale de cette nouvelle production d'un violon sur le toit. Il y aura aussi les chœurs de l'Opéra National du Rhin, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, 12 danseurs. Et puis dans la distribution, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais il faut noter bien sûr Valérie Zakomer qui interprétera notamment la grand-mère et Cathy Bernecker qui interprétera la marieuse. Je vous propose maintenant eh bien, de retourner au plateau, au concert, en direct avec les artistes d'Un violon sur le toit qui vous proposent en avant-première eh bien, quelques airs de cette nouvelle production à venir. Nous sommes à un moment très délicat parce que Père Chic, le mari de Odelle, donc la fille cadette de Thévier le laitier, Père Chic est parti à Kiev rejoindre ses amis révolutionnaires, mais il a été arrêté par la police russe, envoyé en Sibérie, et Odelle, sa femme, décide de le rejoindre. Thévier accompagne sa fille à la gare, les larmes aux yeux, on peut le dire, parce que sa famille est en train de se décomposer, et Odelle interprète cet air déchirant sur le quai, loin du pays que j'aime. C'est Marie Hopper qui incarne Odelle, accompagnée au piano par Frédéric Calandreau. Frédéric Calandreau, chef de chant à l'Opéra National du Rhin, qui accompagnait Marie Hopper dans cette magnifique chanson. Bonjour Marie Hopper.
Bonjour.
Après Podane, après Geneviève dans les Parapluies de Cherbourg, vous êtes une des trois sœurs. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette œuvre, Un violon sur le toit?
Pour moi, c'est vraiment une œuvre majeure de l'âge d'or de Broadway. Je pense qu'elle est très importante dans l'histoire des comédies musicales américaines. Et j'ai eu le bonheur de la découvrir à New York lorsque j'y habitais pour mes études, dans la production de 2015, justement.
De Bert Lutcher, dont on a entendu
l'extrait. Et c'était vraiment bouleversant pour moi. J'ai évidemment vu le film aussi. aussi. Et plus récemment, on est allé voir avec Neïma la version en yiddish aussi de cette année à New York.
À New York aussi, oui.
Qui était
entièrement en yiddish.
Voilà, très différente.
Mise en scène par Joël
Grey. Très épurée et magnifique, vraiment.
Là, vous vous attendez à quoi, donc ? Vous ne savez pas ?
Bah, on va découvrir ensemble
avec
cet
avec
hiver.
Le metteur en scène.
Oui, on a très hâte vraiment de travailler avec ce grand metteur en scène et on va à mon avis beaucoup profiter.
Neïma Naouri, bonjour.
Bonjour.
Rebonjour plutôt. Vous avez de quoi tenir, ou plutôt de qui tenir, si je peux me permettre de dire ça.
Oui.
On va pas faire à chaque fois, mais quand même de Laurent Naouri, de Nathalie Dessay. Et alors, on parlait en coulisses. En fait, vous, quand vous faites votre première comédie musicale professionnelle sur scène, vous allez directement à l'opéra.
Bah oui, c'est ça.
Parce que là, en l'occurrence, c'est votre première production.
Oui, professionnel, ouais.
Ouais.
C'est la première fois et bah oui, autant commencer avec un opéra, avec des super chanteurs. Pourquoi s'emmerder ?
Moi, je vous avais vu, vous étiez formidable. Je crois que c'était au conservatoire de Saint-Maur.
Ouais.
Voilà, ça. Le conservatoire qui est une classe de comédie musicale, oui. Qui avait présenté notamment Company de Stephen Sondheim. Vous jouez une des héroïnes. Vous étiez formidable. Là, alors. Quelle tessiture, quelle est la voix, sur quoi vous avez de qui tenir, mais alors du coup vous allez sur quel territoire lyrique, jazz?
Dans cette comédie musicale là,
oui.
C'est un peu un mélange des deux. En même temps, c'est à l'opéra et on a envie d'avoir les mêmes exigences que pour le chant lyrique et en même temps c'est quand même très théâtral, presque. Il y a des chansons qui sont très parlées, presque. Donc, faut quand même rester dans un registre entre le parler et le chanter.
Ça veut dire que vous avez fait votre choix. Vous allez vers la comédie musicale, c'est décidé, ou c'est juste un premier pas?
Bah, pour l'instant, oui, mais après, je prends ce qui vient.
Alors, il y en a une autre en face de vous qui s'appelle Anaïs Ivoz. Vous, par contre, c'est pas la première fois. Vous allez chanter à l'Opéra National du Rhin, mais par contre, vous me disiez. Ben, c'est votre première comédie musicale.
Oui, parce que j'étais depuis 2 ans à l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Alors j'ai eu la chance de chanter plusieurs rôles et d'être aussi dans des équipes incroyables sur la scène de l'Opéra du Rhin depuis 2 ans. Et là, c'est la première fois que je vais faire de la comédie musicale et c'est génial parce que c'est vraiment un autre monde en fait.
C'est-à-dire, en quoi c'est différent?
Bah déjà, l'ambiance, les gens. Je sais pas, là, je viens de découvrir l'équipe et. C'est un peu une autre mentalité, mais je sais pas, la façon de traiter la voix, de c'est assez intéressant, ouais, je trouve. On va voir, on va découvrir.
On traite pas la voix pareil dans la comédie musicale.
Non, là c'est très différent en fait. Je découvre aussi avec mes collègues une nouvelle façon de chanter et de traiter la voix en fait, une autre technique. Et je pense que je vais apprendre avec eux un petit peu aussi à peut-être chanter moins lyrique ou parce que comme on a des micros, c'est pas forcément nécessaire. Et comme disait Naïma, on peut être beaucoup plus sur le théâtre et sur le texte. Donc c'est une autre approche, beaucoup plus théâtrale, on va dire.
Merci Naïma Naouri, merci Marie Aupert, merci Anaïs Ivoz, Alexandre Fetroni, vous êtes un peu le tout fou, dans le tailleur un peu tout fou et c'est très ça. Très amoureux, c'est ça,
c'est
dans
ça.
Le rôle de Motel.
On va dire maintenant, je serai le tout fou du spectacle, mais oui c'est ça, il est c'est un homme très enjoué qui est très humain et très spontané, donc il va tout faire pour avoir title. Pour déclarer son amour, et puis du coup, il exprime, on l'a vu tout à l'heure, sa joie de manière légèrement excessive, mais très spontanée.
D'accord, c'était fait exprès. Merci beaucoup.
Merci.
On va se quitter avec un dernier extrait d'Un violon sur le toit, en direct du Carreau du Temple, la chanson mélancolique par excellence. On est le jour du mariage, à la fin du premier acte, le mariage de l'aîné de Seitel avec Motel, le tout fou. Je me suis permis de dire ça, mais je ne sais pas si ça sera la direction d'acteur de Barikowski, à vrai dire. En tout cas, voilà, les deux s'aiment et les parents regardent le jour se lever, au jour du mariage. Le père a accepté cette union, il a convaincu par malice sa femme en inventant un rêve prémonitoire. Et bien le jour dit, ils ne savent pas encore que le mariage va être interrompu violemment par l'armée russe. Par contre, ils savent que les traditions sont en train de disparaître. C'est tout l'intérêt et tout le thème de cette chanson, Sunrise Sunset, adaptée en français par Stéphane Laporte en un jour. Une heure, ou plutôt une heure, un jour, accompagnée au piano par Frédéric Calandreau.
je tout d'un coup
quand a-t-elle pris ce port de Rennes, quand est-il devenu si grand?
Hier ce n'était encore que des enfants. Une heure, un jour, un an, 20 ans, la vie prend son
à la troupe d'Avelon sur le toit qu'on vous conseille d'aller découvrir à l'Opéra National du Rhin de Strasbourg à partir du 6 décembre. Le spectacle sera aussi à Mulhouse à la Filature les 10 et 12 janvier. Plus d'informations comme toujours sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Merci à l'équipe technique aujourd'hui au carreau du temple, Adrien Gazza, Sébastien Huel, Jean-Benoît Tétu, Régis Nicolas, Sébastien Royer, Beaufard Guéride, François Ledreff, Maxime Bayol, Israël Solorzano, Jean-Michel Després, Charles Serres. Merci à Martine Moni qui m'a aidé à préparer cette émission et à Fabien Flora qui l'a réalisé. Très bon dimanche sur France Musique. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Frédéric Odéon.
À réécouter sur francemusique.fr.